Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Bienvenue dans l'émission Espace Femmes qui traite des questions qui concernent les femmes. Les femmes face à la transformation des produits, comment ça marche? C'est le thème de notre émission ce soir. Pour subvenir à leurs besoins et apporter leur contribution au développement économique de leurs pays respectifs, les femmes se mobilisent dans la transformation des produits dans divers domaines. Cependant, ces dernières rencontrent plusieurs difficultés dans la production et la commercialisation de leurs produits. Face à cette situation, certaines femmes se sont regroupées, soit en association ou en groupement ou même individuellement pour pouvoir produire et surtout vendre leurs produits. Dans le souci d'accompagner ces braves femmes transformatrices, les États africains ont signé plusieurs accords dont celle de la ZLECAF lors du sommet des chefs d'État de l'Union africaine en 2019. Ainsi, plusieurs autres initiatives ont vu le jour, parmi lesquelles le premier sommet des femmes transformatrices qui se tient présentement au palais du 29 juillet de Niamey. Ce sommet a débuté le 20 novembre et prendra fin le 25 novembre 2022. Les femmes transformatrices du Niger et de la sous-région participent activement et en grand nombre à ce sommet. Occasion saisie pour se regrouper et partager leur savoir-faire à travers des conférences, des échanges et des expositions de leurs produits. Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé les femmes à se lancer dans la transformation des produits? Comment améliorer l'environnement des affaires et renforcer l'autonomisation économique des femmes? Comment améliorer le leadership des femmes transformatrices dans le système de la ZLECAF? Quels sont les produits transformés les plus prisés? Pour mieux comprendre le contexte de la transformation des produits par les femmes de la sous-région, nous nous sommes déplacés au palais du 29 juillet pour discuter avec les femmes transformatrices venues de la Côte d'Ivoire, du Tchad, du Niger. Ainsi, nous sommes avec Mme Koulibaly Halimata, présidente de la délégation ivoirienne, Mme Hadje Fatim Hiloua, exposante de la délégation tchadienne, de Mademoiselle Nadia Yarima Bako, membre du comité d'organisation. Je suis Rafika Taher à la présentation. Merci pour votre présence à cette émission. Étant l'un des principaux acteurs de la société, la femme représente plus de la moitié de la population du monde. Cependant, son autonomisation demeure indispensable car elle constitue un énorme potentiel pour le développement. De ce fait, la femme doit jurer des moyens lui permettant de mettre en place une activité génératrice de revenus. Nous allons commencer par vous, Nadia Yarima Bako. Quelle place occupe la femme dans le domaine de la transformation des produits au Niger?
C'était même le but de ce sommet. C'est pour comprendre le rôle de la femme dans le domaine économique même du pays. Comme vous le voyez à travers ce sommet, les femmes transforment, les femmes sont talentueuses, ambitieuses, elles sont ingénieuses. On a nous-mêmes été vraiment surpris, on a été choqués de voir comment les femmes, vraiment, elles travaillent. Les femmes, elles sont talentueuses. Et maintenant, à travers ce sommet, on a vu aussi comment elles contribuent à la transformation et comment elles contribuent au marché même, au marché local. Donc, ce sommet nous a vraiment montré le rôle de la femme dans la société et qu'il est temps vraiment de l'incorporer dans la discussion, de l'incorporer dans les décisions parce qu'elle joue un rôle vraiment immesurable même dans le domaine financier, à travers tous les plateaux, si on peut dire. Voilà, nous-mêmes, on a été vraiment très surpris et c'est agréable de voir toutes ces femmes de toutes ces nationalités venir ensemble et créer un environnement très, très, très beau. Mmh.
Pouvez-vous nous dire le nombre de pays ainsi que les femmes qui participent à ce premier sommet?
Nous avons actuellement 21 pays, les 5 régions de l'Afrique. On a le Zimbabwe, la Namibie, on a le Kenya qui est représenté, l'Afrique de l'Ouest, on a presque toute l'Afrique de l'Ouest, si je peux dire. On a quelques pays de l'Afrique du Sud, et puis on a le Maroc, on a l'Algérie. En tout cas, on a à peu près 21 pays jusqu'à présent, jusqu'à là, qu'on a pu compter.
D'accord, vous avez un nombre de participantes?
Ah, on a plus qu'on a anticipé. On avait anticipé 200-300. On a plus que ça maintenant. On a dû augmenter les stands même.
À peu près combien?
Je ne vais pas vous donner un chiffre exact, mais on est dans les centaines quand même. On a dépassé les 200.
D'accord. Quelles sont donc les actions que mènent les autorités et leurs partenaires pour aider les femmes dans la transformation des produits? Et quels sont les objectifs visés à travers ce sommet?
Donc, c'est un des objectifs même de ce sommet, c'était pour les amener les femmes transformatrices, qu'elles nous disent ce dont elles ont besoin, quel genre de support elles ont besoin. Vous savez, comme un des challenges même que les femmes font face à, c'est les politiques même, le financement, les compétences. Les femmes, elles sont bien volantes, mais beaucoup de temps, on n'a pas les outils. On n'a pas les outils pour s'instruire, pour se former, on n'a pas les outils pour gérer, on n'a pas vraiment aussi le support des gouvernements derrière nous. Donc, un des objectifs de ce sommet, vraiment, c'est d'amener les femmes et aussi d'amener, de commencer la discussion, de commencer la conversation entre les femmes même. Le sommet, bon, l'initiative des femmes transformatives, c'est par les femmes pour les femmes, si je peux dire. Donc, aujourd'hui, on a eu l'activité de la validation des textes. Elles ont dû valider maintenant le concept même de AWIP, le concept de l'initiative. Elles sont regroupées, elles ont maintenant pris en main la structuration de l'initiative. Donc, elles décident de qu'est-ce qu'elles veulent voir à travers ce sommet. Et elles ont élaboré des recommandations et des objectifs qu'elles veulent atteindre. Ce que, Inch'Allah, on va amener au level politique, au level des dirigeants.
Madame Koulibaly, dites-nous pourquoi vous avez choisi la transformation.
Je suis Koulibaly Alimata et je viens de la Côte d'Ivoire. J'ai une unité de transformation de produits agricoles depuis une dizaine d'années. Et présidente d'un grand réseau de femmes agro-transformatrices, ce qui me vaut l'honneur d'être présente à ce forum.
Oui, pourquoi avez-vous choisi?
Pourquoi je suis allée à la transformation? J'ai eu cette activité de ma mère qui pratiquait la transformation d'une manière bénévole. Je veux dire, elle faisait le séchage des légumes des maraîchers et des céréales, les farines et autres, mais elle ne commercialisait pas. En fait, elle le faisait pour la conservation de la famille. Alors, quand j'allais en Europe, elle m'a fait des paquets de produits séchés. J'ai passé 2 ans et j'ai constaté qu'après 2 ans, ces produits étaient toujours intacts. Et comme Dieu fait bien les choses, j'ai été orientée en chimie-biologie à l'université d'Abidjan, ce qui ne faisait qu'entériner ce que j'avais. Mais quand j'ai terminé, je ne me suis pas engagée directement dans la transformation. Et un jour, ma sœur aînée, qui est avocate, qui avait beaucoup voyagé à travers le monde, a dit, « Tu sais, c'est un métier d'avenir. Ce que maman fait, je ne souhaiterais pas que ça perde. Il faut que tu prennes la relève. » Pendant des années, j'ai refusé parce que je trouvais que c'était trop difficile. Je voyais ma mère sécher. Le jour où il pleut, elle a des soucis, elle est inquiète. Et ce n'était que pour la consommation familiale. Alors que moi, je devais sécher et commercialiser. Comment j'allais faire? Et un matin, elle est venue à mon domicile. Elle m'a dit, allons voir maman. Il y a longtemps, on ne l'a pas vue. Et quand j'arrive, elle dit, maman, dis à ta fille de faire ce que tu fais. C'est intéressant, c'est un métier d'avenir. Et voilà maman qui défait 5 000 francs. CFA de son porte-monnaie et qui me remet 5 000 francs. Ce n'est pas à dire que je ne pouvais pas donner ces 5 000 francs, mais moi j'ai trouvé que c'était les 5 000 francs motivateurs. Dès qu'elle m'a donné ces 5 000 francs, je me suis sentie contrainte de m'engager et c'est comme ça que j'ai commencé à domicile, dans ma cuisine, après au garage. Et aujourd'hui, j'ai une unité sur 500 mètres carrés à Abidjan avec 10 employés, avec des emballages de cette manière. Vous allez me demander comment j'ai progressé.
Oui, ça va venir, mais quel est le domaine dans lequel vous évoluez? Qu'est-ce que vous transformez?
Les céréales, les céréales, les dérivés des céréales, les farines infantiles enrichies de lutte contre la malnutrition. Je suis la coordonnatrice de Misola, Côte d'Ivoire, et je fais les granulés de mil, les granulés de deguel, le fonio précuit et les farines usuelles de consommation. Voilà, c'est la gamme céréale, la gamme légumineuse telle que le manioc, notre attiéké, et puis la gamme des fruits telle que la banane plantain.
Et vous, Madame Hadje Fatimé, pourquoi vous avez choisi la transformation des produits?
J'ai choisi la transformation de produits, surtout dans le domaine de la parfumerie, parce que c'est quelque chose que je connais déjà et c'est apprécié partout dans le monde. J'ai commencé ça ici à Niamey. J'étais étudiante à l'ENA et mes collègues à chaque fois me demandaient « Amène-nous votre encens là, c'est très bon, c'est très doux ». Donc je commençais à le faire en 2015. Et petit à petit, j'ai constaté que même à N'Djamena, ça marchait très bien. À chaque fois, les gens, quand ils voyagent, surtout le packaging que je fais, ils disent c'est bon pour donner ça en cadeau et tout ça. Et ça m'a motivée de grandir l'entreprise et officialiser ça. Ici, par exemple, j'ai 6 variétés d'encens et je continue d'innover. Et en ce moment, j'ai 5. J'ai commencé avec 2 khumra, le ambre. Maintenant, j'ai 5. Ça évolue et j'ai dit pourquoi ne pas faire quelque chose de facile, de pratique pour les hommes. Là, je fais les sprays désodorisants pour les voitures, les bureaux, les chambres. C'est pratique pour les célibataires et les hommes aussi. Ils ne peuvent pas aller prendre l'encensoir et la braise pour mettre. Donc, il suffit de pulvériser et ils ont la bonne senteur.
D'accord. Madame Koulibaly, dites-nous depuis combien de temps vous êtes dans la transformation des produits?
Je suis dans ce métier depuis une dizaine d'années.
Et parmi les mécanismes mis en place par les dirigeants de votre pays dans le cadre d'épauler les femmes transformatrices, figurent des subventions en espèces et en nature. Avez-vous une fois bénéficié de ces subventions?
Ah oui, j'ai bénéficié de subventions, mais suite à un appel à projet. Et la subvention était de l'Union européenne et de Affaires mondiales Canada. Un appel à projet qui regroupait 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Et nous avons implémenté ce projet de 2014 en 2016. Et c'est cette subvention qui m'a permis d'avoir cet étiquetage. Ça m'a permis de mettre mon unité aux normes agroalimentaires. Auparavant, mes emballages étaient des sachets ordinaires. Avec cette subvention, j'ai pu faire des emballages, mettre mon unité aux normes agroalimentaires, faire des partages d'expériences et avoir accès dans certains supermarchés, grandes surfaces de distribution à Abidjan, parce que cet emballage était approprié à la distribution sur les grandes surfaces de distribution.
D'accord.
Ça m'a été d'un très grand apport.
Madame Hadje Fatimé, est-ce que vous avez déjà bénéficié des subventions venant de l'État tchadien?
J'ai bénéficié d'une subvention, mais pas de l'État tchadien, d'une association ou bien une ONG qui est en partenariat avec la AFD.
D'accord. Et ça vous a permis de faire quoi?
Ça m'a permis d'agrandir le capital, le business, et c'est ça qui m'a permis d'innover, d'avoir plusieurs produits à la fois.
D'accord. Mademoiselle Nadia, tout à l'heure dans votre commentaire, j'ai cru comprendre que l'État n'a pas fait grand-chose dans l'organisation de ce sommet.
Absolument non. On a collaboré avec la Fondation Nour pour réaliser ce projet, avec le ministère de l'Industrie. Absolument non. Le gouvernement a été 100% derrière nous. Comme vous avez vu à l'ouverture même, on avait les ministres, les délégués qui étaient là. Malheureusement, on a eu un petit challenge. On n'a pas pu avoir toutes les délégations qu'on voulait.
Donc avant de continuer, je vous propose de suivre des témoignages des femmes qui ont été recueillies sur place sur le sujet.
Bon, on a l'habitude de venir des fois. Donc ça, comme c'est le premier sommet, on dira que c'est la première fois ici. Nous avons le miel. C'est ça notre produit phare. Et depuis 2018, on a l'habitude d'aller dans toutes les foires. Toutes les fois, oui. Puisque dernièrement, on était allé au Fona Grosso. On a fait la foire Made in Niger. On fait presque toutes les fois. Non, Niger, c'est bon. On n'a pas eu d'abord pour l'extérieur. C'est depuis l'année passée. D'abord le local. On a un local et on a les machines. Donc tout est fait localement. Il n'y a aucun mélange ni importation ou exportation. Donc on a eu la confiance du HC3N qui nous ont certifié et qui nous ont attribué les machines.
La certification, vraiment, c'est très bien parce que ça vous permet, aux yeux de vos clients, vos produits sont de qualité. Ça vous protège en tant que producteur et ça protège aussi vos clients. Parce que quand un produit n'est pas de qualité, vous êtes tous exposés. Toi qui es le producteur et le client même qui consomme. Mais là, tant que c'est certifié conforme vraiment, ça vous pousse et ça vous permet de vendre vos produits partout.
On fait des yaourts et puis le fromage traditionnel du coup. Donc, oui, je suis juste transformatrice. J'achète le lait avec les éleveurs. Donc, je n'ai pas fait la certification parce que je n'ai pas la maîtrise de la production de lait. Je ne sais pas l'alimentation que les éleveurs ont. Je ne fais pas moi-même la traite.
Je pense le faire. Mais pour le moment, je ne l'ai pas fait. Pour pouvoir le faire, j'ai créé une coopérative avec les éleveurs qui va me permettre de former ces éleveurs-là, d'avoir un suivi sur leur production et les former sur l'hygiène de la traite, sur l'alimentation et leur faire un suivi sanitaire des animaux, les aider à avoir tout ça pour pouvoir être sûr de la qualité de l'eau qu'on livre. En ce moment, je peux me lancer dans la certification.
Bon. D'après les propos de ces femmes que nous venons de suivre, beaucoup reste à faire pour que les femmes transformatrices puissent atteindre leur objectif. Donc, Madame Koulibaly, quelle proposition vous faites à l'endroit de ces femmes? Il y en a qui disent qu'elles ont certifié leurs produits, il y en a qui disent qu'elles ne l'ont pas fait, il y en a qui disent qu'elles exposent juste au Niger, qu'elles n'ont pas eu la chance d'aller à l'extérieur. Vous avez bien suivi, donc qu'est-ce que vous leur proposez pour que les choses changent?
Oui, en fait... Au niveau actuel de la transformation en Afrique, il faudra catégoriser. Tout le monde ne peut pas aller à la certification automatiquement. Il y a une des intervenantes qui l'a dit, celle qui fait le fromage à base de lait de vache. Et c'est vrai. Mais pour pallier à cela et pour pas faire la qualité de produits transformés, il faudra respecter... la bonne pratique d'hygiène, bonne pratique de production. Et puis, il y a des normes qui existent dans chaque pays. Il faudra se conformer à cela en attendant d'aller vers la certification. Parce que la certification, c'est le top. Et c'est lourd, c'est à coût élevé. Elle l'a dit, il faut aller depuis la production, maîtriser toute la chaîne de valeur et connaître la traçabilité des produits depuis la plantation jusqu'à nos unités de transformation. Ça, c'est à long terme, mais il faudra y arriver. Alors, je leur conseille, celles qui n'ont pas encore ce niveau, de respecter les bonnes pratiques d'hygiène, les bonnes pratiques de production, améliorer les emballages. Et pour les foires, on insistait, la ZELECAF va venir nous accompagner. Et effectivement, les AUIP, pour lesquels nous sommes ici également au Niger, va nous accompagner pour une meilleure conservation, commercialisation de nos produits transformés. Et que dans chaque pays, il y ait des vidéos de publicité à la radio, faire des communications du consommateur local, à la télé, passer des spots de vidéos pour inciter la population à consommer local. Voilà quelques points sur lesquels je voulais intervenir.
Depuis 2019, les États ont mis en place le système de la zone de libre-échange continentale africaine, ZELECAF. Quels sont les avantages de ce système pour les femmes transformatrices, Mademoiselle Nadia?
Bien sûr, les avantages sont clairs. L'agrément va ouvrir le marché pour combien de trillions? C'est 30 trillions de dollars. Ça va faciliter l'échange de 30 millions et générer un marché de 30 millions qui vaut à peu près 30 trillions de dollars dans le marché africain. La ZELECAF est censée faciliter l'échange des produits, censée faciliter, donner l'avantage même aux producteurs locaux de pouvoir échanger les manufacteurs, les fabricateurs. Donc, la ZELECAF, il est clair, les avantages de la ZELECAF sont vraiment très clairs. Ça va ouvrir le marché pour des millions de dollars. Ça va faciliter l'échange de marché entre, l'échange de produits entre même les pays africains. Ça va autonomiser beaucoup de producteurs locaux. Et donner accès même au marché aux producteurs locaux. On espère que ça va un peu diminuer même la compétition au marché global parce que maintenant on va pouvoir créer nos propres marchés, vendre nos propres produits dans nos propres pays. Et c'est ça aussi une des raisons même pour initialiser l'initiative des femmes transformatrices. C'est pour qu'au lieu d'aller chercher les produits hors de l'Afrique, on puisse générer cette création nous-mêmes. On puisse nous produire, nous fournir nous-mêmes, entre nous-mêmes. À travers ce sommet, on a vu beaucoup de partenariats qui sont créés. Les femmes ont pu échanger, on peut découvrir aussi ce qui se passe dans d'autres pays. J'ai des exposantes tchadiennes qui m'ont dit qu'elles ne croient, il y a beaucoup de produits qui se font ici, que c'est la même chose qu'on trouve chez eux. Ou bien des produits où les matériaux de base, on trouve ça chez eux. Donc, je pense que ça va vraiment faciliter beaucoup l'échange. On le voit venir. Ça va créer un nouveau monde. Ça va mettre l'Afrique au devant, financièrement et économiquement.
Suivons à présent le portrait de Madame Alassane Nafissa, une femme très engagée dans le domaine de la transformation agroalimentaire.
Âgée de 43 ans, Madame Alassane Nafissa Tou est mère de 4 enfants. Après ses études primaires, secondaires et supérieures, de 1983 à 1998, Madame Nafissa Tou est titulaire d'un diplôme de technicienne supérieure en marketing. Après une quinzaine d'années de travail dans des entreprises, elle décide de réaliser son rêve d'enfance. Rêve d'aider les femmes rurales pour améliorer leurs activités génératrices et revenus. Madame Alassane est actuellement promotrice Alpha Medina et coordinatrice de l'ONG Bien-être de la femme rurale. Elle nous raconte les raisons qui l'ont motivée.
À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants. Dans un village, on peut se retrouver là où il n'y a que mon père et ma mère qui sont les enseignants. Ma mère a pratiquement les femmes du village comme étant ses copines. Je suis toujours proche d'elle, donc j'entendais ce que les femmes disaient, les problèmes dont les femmes sont confrontées. Après ma soutenance, j'ai fait le service civique national au niveau de la Loterie nationale du Niger. Et étant chef d'équipe, on faisait des ventes ambulantes dans les villages environnants avec les chauffeurs et des revendeuses. Et une fois, on était parti dans un village, un jour de marché, je revoyais encore ces femmes, comme je vous l'avais dit au début, qui venaient vendre des produits au marché. C'est de là que j'ai eu l'idée. J'ai dit, bon, ces femmes-là, je les ai laissées, ça fait des années, et voici maintenant, j'ai fini mes études, je revois encore ces femmes-là, avec toujours ce fardeau-là sur leur dos, elles ont toujours des problèmes, elles n'ont pas avancé. J'ai dit, bon, est-ce que je ne vais pas créer une ONG? J'ai monté le dossier de l'ONG, je suis partie, j'ai déposé, avec l'aide de mon mari, qui m'a beaucoup aidée. Quel que soit le dossier que je monte, il m'a jamais dit, ne fais pas ça. Il a été le maillon fort, non seulement de mon organisation, mais de moi-même. Un an, deux ans après, on m'a appelé que l'arrêté est sorti. Donc, je voudrais vraiment aider ces femmes-là et les voir un peu avancer. Donc, et c'est en ce moment-là que j'ai monté un premier projet sur l'autonomisation des femmes que j'ai réalisé à Saï. Et là aussi, parce que mes parents étaient restés à Saï, et elles ont fait le groupement de 40 femmes qu'ils ont appelé un groupement Sougimarou. Et j'ai amené des machines avec le financement de l'ambassade des États-Unis parce que c'est mon premier bailleur. Et on a exécuté le projet. Quand on a exécuté le projet, là, c'était un projet de 1 an. L'ambassade a bien apprécié. On a déposé le rapport. Ils étaient partis sur place voir le travail. Ils ont rencontré les femmes. Maintenant, ils nous ont dit si on peut encore aider un autre groupement de femmes. On a fini avec Niamey, on a fait Tillabéri, on a fait Ouélabon, on a fait Dosso, Zender et jusqu'à Difa. On a des groupements jusqu'à Difa. Et à part l'ambassade des États-Unis, on a encore eu un autre bailleur qui s'appelle Osiwa. Donc lui, on a un grand centre de récupération des jeunes filles déscolarisées ici à Niamey. Ce centre regorge aujourd'hui presque 60 jeunes filles. On est en train de les former en couture, en tricotage, perles, savon et les déodorants et désodorisants.
Pour renforcer son aide pour les femmes, Madame Alassane Nafissa a encore créé une entreprise pour écouler les productions des femmes rurales.
Quand les femmes produisent leurs produits, maintenant pour écouler ça, elles ont des problèmes parce que non seulement de l'emballage, de comment trouver la clientèle et comment vendre. Donc l'entreprise, c'est quoi le rôle de l'entreprise? C'est d'acheter tout ce que les femmes là produisent et de les revendre. Donc j'achète, je reconditionne et puis moi je vends. Je suis très satisfaite. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, là, je peux me glorifier. Si je savais, je n'allais pas travailler 13 ans durant.
Monsieur Alassane Abdou apprécie le courage et l'effort de son épouse envers les femmes.
Moi, ma politique est très simple. Quand une personne veut se battre, elle peut changer et peut faire changer des choses. Je pense que cette personne mérite le soutien de tout le monde. Donc, je la soutiens parce que tout simplement, tout ce qu'elle faisait, je pense que d'abord, ça doit être un exemple pour beaucoup de femmes. Et également, c'est un exemple même pour ses enfants qui vont voir comment leur maman est en train de se battre. Elle a mon soutien parce que tout simplement, je sais ce qu'elle fait, je sais ce qu'elle veut. Et elle m'associe beaucoup dans tout ce qu'elle fait. Je peux dire que nous formons une équipe pour le développement de son entreprise à elle. Aujourd'hui, grâce à ces femmes transformatrices, tu as tout en poudre, tu as tout en main, tu as tout totalement. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose pour que les gens puissent comprendre que ces transformatrices doivent avoir notre soutien.
Il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes. Conclut Madame Alassane Nafissatou.
Bon, qu'est-ce que vous pensez du portrait qu'on vient d'écouter, Madame Hadjé?
Vraiment, j'admire son courage et elle a pensé à la femme rurale. Beaucoup de femmes, dès qu'elles commencent à travailler ou bien elle est stable, elles ne pensent pas à aller entreprendre ou bien aller penser à faire du bénévolat surtout. Mais elle a eu le courage. Et vraiment, à travers elles, beaucoup ont bénéficié, elles sont indépendantes.
D'accord. Et vous, Madame Koulibaly, qu'est-ce que vous pensez du portrait qu'on vient d'écouter?
Oui, merci.
De ce que le mari a dit, tout ça.
Oui, en fait, c'est une dame courageuse qui a une vision. Et cette vision va dans la droite ligne de nous, notre vision. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en zone rurale, nous formons les femmes, nous accompagnons les femmes, nous faisons en sorte que les maraîchers qu'elles produisent, nous puissions les récupérer, les acheter, les faire sécher et puis commercialiser sur Abidjan. Donc et puis ça répond à la chaîne d'industrialisation. Quand on parle d'industrialisation, ce n'est pas uniquement les femmes en zone citadine. Il faut partir de la base. Et le basique se trouve surtout en zone rurale parce qu'elles sont toutes des transformatrices de ce côté-là. Donc, il faut leur tendre la main, faire en sorte qu'elles puissent changer d'échelle, aller vers l'industrialisation. Toutes les femmes commencent d'une manière petitement. Et il faut tendre la main pour qu'on puisse grandir ensemble. C'est ça la chaîne d'industrialisation.
D'accord. Mademoiselle Nadia, depuis que l'Afrique a opté en 1989 pour la semaine de l'industrialisation, à ce jour, quels sont les changements que la femme transformatrice a connus dans ses activités?
Ça, c'est une très bonne question. Le changement, effectivement, il est là, mais il est lent. Il est très lent, à mon avis. On parle de l'industrialisation, mais on n'a jamais vraiment mis la femme au devant comme on le fait maintenant. Et je pense que c'est une très grande étape qu'on vient de prendre. Et j'aimerais voir encore plus de changements. La femme, c'est la base, c'est le pilier de la communauté. Et à travers ces conversations, je pense que on va très bientôt voir beaucoup, beaucoup qui vont se réaliser sur ce continent africain à travers cette initiative.
Donc, pour que ce changement-là puisse vraiment aller comme il le faut, qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait?
Donc, ce sommet est en fait un résultat des constats qu'on a faits. C'est que la femme, elle a le vouloir, la femme, elle a l'initiative, elle a les compétences, mais elle n'a pas les outils techniques, si je peux le dire. Donc, maintenant, ce qu'on a, la comité a décidé de faire, c'est non seulement on va rassembler les femmes, on va les mettre ensemble, on va les identifier, on va montrer ce qu'elles font, mais aussi on va aussi leur fournir des formations pour un peu les guider à grandir leurs compétences. Donc, c'est vrai, vous vendez dans vos communautés locales, mais maintenant, on veut vous mettre sur le plateforme international, le plateforme continentale internationale. Donc c'est pour ça, c'est pour cela, dont vous avez vu, on a eu, c'est une semaine de l'industrialisation effectivement, on a eu deux jours pendant cette semaine, on a eu deux jours de formation très intensive sur le e-commerce, sur la digitalisation, l'importance, le rôle du numérique dans la production et dans la vente des produits. Et je pense vraiment que on a tiré beaucoup de leçons. On a aussi déclenché, je pense, une chaîne de changement et de beaucoup de qui va se passer. Donc, on attend de voir comment ces femmes, ces leaders, elles vont amener AWIP en avant.
D'accord. Madame Hadje, peut-on dire que la femme transformatrice est prête pour l'industrialisation? Vous êtes prête pour l'industrialisation?
Oui. La femme transformatrice, elle est prête pour l'industrialisation. Pourquoi? Parce que déjà, elle a la volonté. Elle a la volonté, comme elle transforme, ce qui lui manque, c'est le moyen pour l'industrialisation. Donc, ça va l'aider à, au lieu de transformer à la main, maintenant, avec l'industrialisation, elle pourra, avec l'industrialisation, elle pourra réaliser plusieurs productions. Elle pourra innover. Elle pourra faire beaucoup de choses. Elle pourra accomplir.
D'accord. Et vous, Madame Koulibaly, pensez-vous que la femme transformatrice est prête pour l'industrialisation? Si vous aussi, vous êtes prête pour ça?
Je peux dire oui et crier fort oui parce que ça s'impose à nous, femmes transformatrices. Nous avons constaté que depuis des millénaires, les femmes africaines transforment tout le temps. Mais une des interlocutrices a dit à la radio que quand elle était petite, elle a vu des femmes transformées à un stand A. Elle a fini ses études, elle est revenue, ces femmes étaient toujours à ce stade-là. Et c'est l'industrialisation qui va nous permettre de changer d'échelle. Et elle a été choquée de voir ces femmes toujours au même endroit. Et il n'y a que l'industrialisation qui peut nous permettre de changer d'échelle, d'améliorer nos emballages, de produire meilleure qualité, surtout vivre de notre activité, ce qui n'est pas totalement le cas. Et industrialisation, tout le monde ne peut pas aller à l'industrialisation en même temps. Il faudra catégoriser. Les plus avancés, les leaders vont aller à l'industrialisation tout en tendant la main à celles qui sont au niveau basique pour qu'elles puissent être tirées également vers l'industrialisation.
D'accord. Quelles sont vos attentes à la fin de ce sommet?
À la fin de ce sommet, que nous puissions opérationnaliser rapidement. En faisant quoi? Constituer des bureaux, moi j'allais dire comité ad hoc dans différents pays, prendre les tests, réfléchir et voir comment on peut installer les premiers agropoles. Agropoles, c'est-à-dire des plateformes physiques d'industrialisation. Ça nous permettra de tirer les femmes de leur domicile, de l'arrière-cour de leur domicile, pour qu'elles puissent être installées sur des plateformes physiques que moi j'ai appelées la plateforme de la petite agro-industrie, installer une vingtaine de femmes selon les normes agroalimentaires avec une salle machine et elles pourront utiliser ces machines-là. Et que cet espace soit avec bien aménagé, CUE, l'électricité, l'eau, les adductions d'eau, l'électricité, les évacuations d'eau. Vraiment qu'on ne puisse plus rien dire lorsqu'il va s'agir de certification. Parce que la certification tient compte de tous ces éléments-là. Ce n'est pas uniquement la qualité du produit, c'est tout l'environnement, le respect de l'environnement et autres. Il faudra faire ça en moins d'un an. Et moi, je pense que c'est possible parce qu'il y a des femmes leaders parmi nous qui peuvent aider à la mise en œuvre de cette idée.
Mmh. Madame Hadji, quelles sont vos attentes à la fin de ce sommet? À la fin de ce sommet, qu'est-ce que vous aimeriez? Quelles sont vos attentes à la fin de ce sommet?
Nos attentes sont, par exemple, faciliter le processus de l'industrialisation comme l'objectif du sommet même. Et faciliter et améliorer l'environnement pour que la femme transformatrice développe ses talents, son marché. Hein.
D'accord. Mademoiselle Nadia, selon vous, quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place du côté de l'État et celui des femmes pour mieux améliorer la transformation des produits par les femmes en Afrique?
Donc, nous envisageons de créer, comme je l'avais déjà dit, nous envisageons de créer un comité de mise en œuvre et de suivi dans chaque pays, dans chaque région, ce qu'on a déjà d'ailleurs commencé aujourd'hui. Donc, parce que, au fait, l'Afrique, c'est un endroit très immense. L'Afrique est immense. On veut que les femmes transformatrices elles-mêmes, elles prennent cette initiative et qu'elles soient les leaders de cette initiative. Elles soient la machine de cette initiative. Donc, nous voulons créer tout d'abord, on est en train de créer des comités de mise en œuvre, de suivi, d'implémentation, qui vont regrouper leurs femmes dans leur communauté et finalement dans leur pays, au niveau national. Ils ont créé aujourd'hui, ils ont donné des recommandations qu'elles veulent voir, qu'on envisage d'amener aux États, aux chefs d'État, pour que AWIP, le sujet AWIP, l'initiative AWIP, devienne une initiative nationale, ou bien que ça soit un projet national, que quand les chefs d'État font des décisions, ils incorporent AWIP, les femmes transformatrices, dans leurs agendas.
Est-ce que les femmes nigériennes ont participé massivement à ce sommet?
Oh, absolument, oui. On a regroupé des femmes de l'intérieur du pays. On a amené des femmes de partout, d'un peu partout, de toutes les régions du Niger. Et elles sont là aujourd'hui, elles sont là, elles exposent, elles ont participé aux formations, elles ont participé aux discussions et la mise en place des structures dont je viens de citer.
D'accord. Est-ce que vous avez des appels à lancer, des suggestions à faire?
Oui, oui. Remercier les initiateurs de ce forum, l'État nigérien, l'Union africaine et tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, sans oublier l'État ivoirien qui a pris sur lui de faire acheminer vers ce forum plus de 15 femmes transformatrices. C'est une grande première. Il faut dire que l'État ivoirien nous accompagne déjà, mais il reste toujours quelque chose à faire. Et je souhaiterais que les recommandations d'inclure les femmes transformatrices dans les programmes nationaux de développement de nos différents pays. Tous les PND de nos différents pays africains doivent intégrer la prise en compte de la femme transformatrice africaine pour aller vers l'industrialisation. C'est un processus. Donc, ça va se tenir sur plusieurs années. Mais il faudrait qu'on commence dès 2023. Merci.
D'accord. Et vous, Madame Hadji, est-ce que vous avez un appel, quelques suggestions à faire avant de conclure?
Oui, j'appelle surtout l'État à accompagner les femmes. Les femmes, vraiment, elles sont sérieuses dans ce qu'elles font. Et ce qui manque, c'est les moyens techniques, c'est le moyen financier. Et déjà, l'État a commencé, même maintenant, nous sommes là, c'est grâce à l'État tchadien, à l'État nigérien, à l'État, aux États africains et à l'Union africaine. Donc, c'est notre plaidoyer, c'est de nous accompagner, de nous accompagner dans ce qu'on nous fait, ou bien nous facilite les formations, le processus d'industrialisation, bien sûr.
Et quel est votre dernier mot, Mademoiselle Nadia?
Moi, mon dernier mot, ça a été répété tout au long de ce forum, de ce sommet. C'est juste une phrase. Si on veut aller vite, on part seul. Si on veut aller loin, on part ensemble. Et c'est ce qu'on a vu. On est allé ensemble par ce forum et on est allé très loin et on souhaite aller encore plus loin.
Selon nos invités, les femmes transformatrices devraient s'orienter vers la certification de leurs produits pour faciliter plus leur écoulement. La mise en place de l'ASLECAF est une initiative bienvenue pour les femmes transformatrices et permettra d'améliorer leur travail. À ce jour, le changement dans le travail des femmes transformatrices va à pas d'escargot, selon nos invités, et qu'il faudra les former et leur donner plus de moyens pour mieux les agrandir dans leur domaine. Leur attente, c'est de pouvoir installer des plateformes physiques d'industrialisation et d'améliorer un environnement propice pour les femmes transformatrices. Ici prend fin cette émission. Merci à vous, chers invités. Nous étions avec Madame Koulibaly Halimatou, présidente de la délégation ivoirienne, en compagnie de Madame Hadje Fatima Hiloua, exposante de la délégation tchadienne, et enfin de Mademoiselle Nadia Yarimabako, membre du comité d'organisation. C'était Rafika Taher à la présentation et Mustapha Ayouba à la technique. Avant de nous séparer, je vous propose de suivre notre rubrique Loti qui sensibilise en humour.
Affairage, 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 affairage.
Mais qu'est-ce qui se passe ici? Apparemment, c'est une manifestation. Viens, on va se mettre de côté, sinon on risquerait de prendre des pierres à la figure. Viens par là, des AA.
Mais tu as peur de quoi comme ça? Calme-toi un peu.
Me calmer? Tu ne vois pas qu'ils cassent tout sur leur passage? Et si les machettes se perdent sur nous?
Des machettes même, tu exagères. De toute façon, tu as toujours été une peureuse.
Je préfère être une peureuse dans ce genre de situation en tout cas. En plus, ils commettent des actes de vandalisme, de l'incivisme, pur et simple.
Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ce gros français?
Tu ne vois pas ce qu'ils font? Casser les feux tricolores et autres panneaux de signalisation, dégrader le goudron avec ses pneus brûlés et les monuments saccagés.
Ah, d'accord, c'est ça l'incivisme?
Oui, tu vois, le civisme désigne le respect, l'attachement et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit, le respect de ses conventions et de ses lois. L'altération de ces espaces publics n'est pas un avantage pour nous tous.
Mais pourquoi ils font ça alors?
Certainement par manque de civisme, de dévouement pour le bien de la nation. C'est tout simplement un non-respect des règles de vie et de la recherche de ses intérêts personnels. Ce n'est pas tout, hein. Le civisme, c'est aussi rappeler une partie de nos devoirs citoyens envers les édifices publics, les feux obtus. Éviter les constructions anarchiques, des cassis sur les voies publiques, éviter de jeter les ordures dans les caniveaux, pour ne citer que cela.
Mais elles doivent être punies dans ces cas. Il n'y a pas une loi contre ça?
Bon, je sais que le code pénal de 2003 du Niger, en son article 389, dit que quiconque aura volontairement détruit ou renversé ou tenté de détruire ou de renverser des monuments, ponts, digues, voies publiques ou privées ou autres constructions qui ne lui appartiennent pas, sera puni d'un emprisonnement de 2 à moins de 10 ans et d'une amende de 10 000 à 5 000 francs CFA. Je ne suis pas juriste, hein, pour rentrer dans les détails.
Oui, 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 tout ça, ils le font quand même. Peut-être ils ne savent rien de cette loi.
En tout cas, s'ils se font prendre, ils vont comprendre. En attendant, nous, on va se chercher.
Mais Biba, essaie au moins de leur parler comme tu connais un peu.
Qui, moi? Mais tu ne m'aimes pas, hein? Qui va m'écouter ici? Regarde comment ils ont l'air possédés. Progressons discrètement, c'est mieux pour nous.
Et puis tu disais que c'est moi la peureuse.